Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité, les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG, c'est le dernier match destination pour notre 15 de France qui a touché au sublime la semaine dernière en Angleterre. Les Bleus ont-ils encore quelque chose à prouver dans ce tournoi? À 10h, nous allons passer la seconde autour d'Hervé Renard qui pourrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. Serait-ce la chance de sa vie? C'est notre question. 11h, le bras de fer des GG autour des Jeux Olympiques. Nous avons célébré cette semaine le J-500. RMC a lancé à cette occasion un sondage exclusif. Un nombre nous a interpellés. 45% des Français ne rêvent pas des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y aura une team, c'est choquant. Une team, c'est pas choquant. Et puis ne manquez pas cette nouvelle séquence dans l'émission. Le guet-apens des grandes gueules du sport, le fameux débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Ce sera un petit peu plus tard, mais chut, c'est un secret pour l'instant. Et puis dans cette émission et toute la semaine sur RMC, un énorme cadeau à vous faire gagner jusqu'à vendredi prochain. Sur RMC, nous vous offrons toute la semaine avec Total Energy, le sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby France 2023, vos places pour le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande.
Waouh!
Dès que vous entendrez ce signal, vous allez avoir 5 minutes pour envoyer Coupe au 7-32-16. Coupe au 7-32-16, vous l'avez bien compris. Il y a aussi Marion Bartoli dans cette. Je t'ai pas présenté, Marion. Attends un petit peu. Non, tu peux pas jouer, évidemment. Tu auras tes places aux côtés de Denis Charvet. Je vous les présente, justement, les grandes gueules ce matin. Matin, de toute façon, vous l'avez deviné. Une grande gueule qui, comme le 49-3, n'est pas là pour être populaire. Elle s'en fout et c'est qu'elle a raison. Marion Bartoli.
Mais je m'en fous d'être populaire. Non, je rigole. Salut à tous.
Ça va Marion, t'as la forme?
Ouais, très très bien.
Bon, une grande émission ce matin, beaucoup de débats, tu l'as compris, à vous proposer. Et j'espère que vous allez être saignants, comme d'habitude. Une grande gueule qui, comme le 49-3, est toujours passé en force. David Douillet, salut David.
Ça va?
Ça va et toi?
Super.
J'ai des phrases d'amour.
Tu comptes faire sujet phrase complément ou pas du tout, mon David?
Ça dépend. Je suis pas content ce matin.
Ok. Tu nous diras énervé. Pourquoi, évidemment, mon cher David. Une grande gueule qui, comme le 49-3, oh, j'aurais quand même dit 5 cm de moins. Stéphane Brun, salut Stéphane.
Salut JC, salut tout le monde. Ouais, t'es pas loin du compte.
Ça va, mon Steve?
Oui, en pleine forme.
J'adore te retrouver comme ça le samedi matin. Je sens que t'as la banane le matin.
Non? Oui, je suis tellement content d'être là à 9h. Bon.
Tu vas nous faire une grande émission à partir de 10?
9h30 peut-être.
Oui, 9h30. Oui. Ouais, 10h45.
On m'a dit d'ailleurs que l'année prochaine, il n'est pas impossible qu'on commence à 8h.
Ah ouais, bah je vous souhaite une belle émission.
Merci mon Stéphane. Et puis une grande gueule qui n'est pas très 49-3, hein, beaucoup plus 16-64. Simon Dutin, salut Simon. Oh,
c'est nul, j'y sais, c'est nul. Bonjour tout le monde.
Salut JC.
Ça va mon ami Simon?
Impeccable. Mieux que certains parlementaires, visiblement.
Exactement, émission politique, évidemment dans cette émission vous nous connaissez, les informations à un prochain flash, c'est très important, ce sera à partir de 10h. On va débuter cette émission avec cette citation de Thomas Fuller qui a dit un jour, Thomas Fuller, hein, pas Thomas Müller, ça n'a rien à voir, ok. Qui veut trop prouver, ne prouve rien.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Interception de Damien Penaud, l'essai de l'équipe de France. Damien Penaud, l'ailier qui vient marquer son 13e essai en bleu. Jamais l'équipe de France n'avait battu la Nouvelle-Zélande par plus de 15 points d'écart. Ça finit, les gars, la France a gagné. La France a remporté le tournoi à destination. Antoine Dupont va soulever le trophée pour le 10e grand chelem français. Essai pour les Bleus. Essai de Falatea.
Un essai de Ramos, un doublé de Flamand, un doublé d'Olivon, un doublé de Penaud. 53-10, victoire historique de l'équipe de France. En Angleterre, on a mis fin à 16 ans de disette, de déconvenue. La plus large défaite de l'Angleterre, ici à Twickenham.
Cet après-midi à 15h45 au Stade de France, les Bleus disputent face au Pays de Galles leur dernier match du tournoi des Six Nations. Leur dernier match au Stade de France avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde le 8 septembre prochain face à la Nouvelle-Zélande. Le 15 de France qui nous a émerveillés la semaine dernière à Twickenham peut encore rêver du titre. Faisons simple, les Bleus doivent d'abord gagner cet après-midi et l'Irlande en fin d'après-midi doit perdre à domicile face à l'Angleterre. La musique qui fout les jetons est cette question. Les Bleus ont-ils encore quelque chose à prouver ? Oui ou non, Stephen Brun ?
Oui.
Marion Bartoli ?
Oui.
David Douillet ?
Non.
Simon Dutin ?
Oui.
Trois oui, un non. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC. Wilfried Templier, salut Wilfried.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Pour paraphraser les grands auteurs, est-ce que cette semaine les Bleus ont nagé dans une piscine de bonheur?
Disons qu'ils ont bien profité après le match ensemble une partie de la nuit, puis après deux jours de récupération, ils ont retrouvé les terrains d'entraînement. Et c'est vrai que de ce qu'on a vu, les sourires étaient là. C'est pas tous les jours que vous infligez la plus large défaite de son histoire à l'Angleterre chez elle, du bonheur. Mais il fallait déjà faire attention à la suite. Seulement, ce groupe sait faire, apparemment, comme l'explique le manager Raphaël Ibanez.
Je pense que ce qui fait en partie le succès actuel de notre 15 de France, c'est cette communication que l'on parvient à instaurer avec l'ensemble du groupe et tout mettre sur la table. Essayer de verbaliser aussi le ressenti des joueurs. Et effectivement, un des premiers enjeux en tout début de semaine, c'était de se rendre compte que nous venions de réaliser une grande performance, que nous étions très heureux d'avoir pu offrir ça à nos supporters français. On a eu beaucoup de retours, mais en même temps, très rapidement se projeter vers ce dernier match. On n'a pas encore rendu le trophée, quoi. Il est encore là.
On a évoqué ce thème, donc vous avez compris, pour éviter les pièges d'une décompression face au Pays de Galles. Mais l'expérience commence à être là. Laurent Labitte, le responsable de l'attaque, en atteste.
Les joueurs, avec la série de victoires qu'on a eues, avec le titre l'année dernière dans le tournoi, ont déjà vécu ce genre de choses. Dans leur club, ils ont aussi quasiment tous gagné, Coupe d'Europe, Championnat. Ce sont des joueurs qui savent se remettre en question, qui ont l'intelligence de savoir qu'au niveau auquel ils évoluent, on peut être remis à l'heure rapidement. Et donc, c'est ce qui les anime.
Et les Français ne gagneront peut-être pas le tournoi, mais depuis le début du monde à Galtier, ils ont coché toutes les cases, gagné partout, de Dublin à Cardiff, d'Édimbourg à Twickenham, Australie, Argentine, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, tout le monde est passé à un moment à la moulinette bleue. Et comme le dit Antoine Dupont, le capitaine, en presque 4 ans, cette équipe a beaucoup changé.
On a acquis pas mal d'expérience, de confiance collective avec ce vécu commun, des scénarios assez incroyables sur ces 4 dernières saisons, des matchs très compliqués, différents statuts. Au début, on était outsider, après on est devenu favori. Donc plusieurs choses qu'il a fallu gérer, des équipes au profil complètement différent, et pas mal de fois ça a quand même fonctionné, donc ça donnait du sens à ce qu'on fait au quotidien, ça montrait qu'on travaillait pas n'importe comment. Donc on a beaucoup de certitudes, et il y a d'autres points sur lesquels il faut qu'on travaille, qu'on s'améliore et surtout qu'on s'adapte, je pense, à ce que nous feront les équipes en face. Mais oui, bien sûr qu'on est une équipe bien plus expérimentée et confiante, je pense, qu'on l'était en 2020.
Tout en ajoutant que la confiance, cette confiance pouvait leur jouer des tours, mais peut-être toutefois que la défaite en Irlande, après 14 victoires de suite, est arrivée au meilleur des moments, dans la dernière ligne droite de la Coupe du Monde.
Merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat et tu seras au commentaire cet après-midi, 15h45, de ce match entre la France et le Pays de Galles. Les Bleus ont-ils encore quelque chose à prouver? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je commence avec un oui. Simon Dutin, pourquoi oui?
Ah, je vais commencer mon argumentaire par une citation de notre sélectionneur du 15 de France cette semaine. Confiance, oui. Excès, c'est parfait. Risque, oui. Voilà. Moi, je viens d'une génération.
Tu l'as fait en mode Serge Gainsbourg un peu.
Ouais, je viens un peu habité, effectivement. Pourquoi ils ont des choses à prouver? Parce que déjà, ce serait si français de perdre aujourd'hui contre le Pays de Galles après l'une des plus grandes victoire de l'histoire du rugby français. Le Pays de Galles, c'est le dernier vainqueur du tournoi avant l'équipe de France. Moi, j'ai grandi à une époque où, c'était toujours super de battre le Pays de Galles. Qu'est-ce qui reste à prouver? Wilfried l'a rappelé. Oui, on a gagné partout, sauf en Irlande cette année, face à la numéro 1 mondiale, à l'équipe qu'on annonce comme notre plus grand rival pour la Coupe du Monde. On n'est pas la meilleure nation mondiale. On doit prouver que, effectivement, contrairement à l'an dernier, avec une équipe qui ne bougeait pas, on est capable d'enchaîner les victoires face à des gros adversaires avec un turnover imposé par les blessures, par les suspensions. Il faut qu'on apprenne à intégrer notre nouveau phénomène flamand. Il faut qu'on apprenne à gérer un petit peu mieux cette alternance entre donc le fameux jeu de dépossession qui a fait notre succès ces derniers mois et puis ce jeu de possession que Galtier voulait promouvoir au début du tournoi. Donc ouais, il y a encore des choses à prouver évidemment. Et Antoine Dupont a eu une immense sincérité, je trouve, cette semaine en rappelant que, enfin, en admettant qu'il s'était instauré un climat un petit peu de suffisance dans ce groupe. Et eux aussi doivent se prouver qu'ils sont capables de retrouver l'appétit et de repartir en conquête.
Ok, ils n'ont rien à prouver. David Douillet, pourquoi ?
Ben, en fait, je me suis posé d'un point de vue plus général, plus global. Et effectivement, comme le dit Simon, dans le détail, quand tu rentres dans le détail du jeu, de la technique, etc., on a toujours quelque chose à prouver parce que on progresse sans fin, quoi. Voilà, il y a toujours quelque chose à améliorer, évidemment. Mais d'un point de vue global, je trouve qu'ils ont plus grand chose à prouver dans le sens où c'est une vraie équipe. C'est une équipe qui est soudée. C'est une équipe qui est capable d'aller chercher des ressources lorsqu'elle est dominée. Quelquefois, c'est une équipe qui est capable de se remettre en question lorsqu'elle a été trop confiante. C'est une équipe qui acquiert une expérience folle, je trouve, et qui aujourd'hui va être capable de réagir à peu près dans toutes les situations. À moins que j'en oublie, mais c'est pour ça que je suis très confiant et j'ai dit non, parce que je pense que dans une préparation à une Coupe du Monde, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est les plus au point. Voilà, c'est dans tous les secteurs du jeu et mentalement sur nous, surtout. Il y a des leaders, il y a un leader prononcé qui a ses marques, qui emmène l'équipe. Enfin, il y a tous les ingrédients pour, et c'est déjà une grande équipe pour moi.
Marion Bartoli, pourquoi oui ? Réponds à David.
Non, mais effectivement, pour moi, en fait, il faut vraiment confirmer. Je suis sur la même lignée que Simon et certainement ce que va développer également Stephen. Et c'est d'ailleurs, quand on écoute Fabien Galtier sur toutes ses conférences de presse, la préparation d'avant-match, il fait vraiment très attention sur la fois les termes de langage qu'il utilise et à la fois faire comprendre que on va pas finir sur le 35e match, le dernier match préparatoire, sur une défaite. Ça serait vraiment assez catastrophique d'ailleurs de finir là-dessus avant la Coupe du Monde. C'est le dernier match officiel avant la Coupe du Monde. Il faut absolument le gagner. Le match de Twickenham est certes effectivement totalement historique dans son résultat, mais il l'a déclaré également lui-même. Il leur laisse penser qu'ils peuvent encore mieux jouer, qu'ils peuvent encore améliorer des choses. Donc je pense qu'ils vont vouloir le mettre en place sur ce dernier match contre le Pays de Galles. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, le Pays de Galles martyrisait le 15 de France. Alors oui, bien sûr, c'est un 15 de France nouveau et qui est certainement, alors il y a un débat d'ailleurs, mais une des meilleures générations que le rugby ait eu actuellement, cette génération 2023. Mais je pense qu'ils vont vouloir à la fois terminer sur une très belle note, continuer à affirmer le statut qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui ils font partie effectivement des top 3 de manière certaine sur les nations mondiales, peut-être top 2, mais effectivement il y a l'Irlande qui est devant eux. Donc il faut aussi envoyer des messages aux autres nations. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, il faut vraiment pas aujourd'hui soit être avec un score extrêmement serré contre les Pays de Galles, soit perdre. Donc le tout cumulé, moi je pense que vraiment ils vont aborder ce match pour continuer à affirmer leur statut, continuer à démontrer que ça fait partie effectivement des plus gros et sérieux candidats au titre final en termes de championnat du monde. Et je pense que ça sera déclaré la plus grande génération de rugby que l'histoire de la France ait eue s'ils remportent le championnat du monde. Et ils en sont totalement conscients. Donc pour moi, le tout cumulé, ils ne peuvent pas se rater aujourd'hui.
David, tu voulais répondre.
Donc t'es d'accord avec moi qu'ils ont plus rien à prouver aux autres, puisqu'ils sont justement authentifiés comme étant dans le top 2 ou top 3 mondial.
Oui, mais dans tous les matchs et dans tous les sports d'ailleurs, quand t'es au plus haut niveau, il faut tout le temps le confirmer. Si tu perds, s'ils font un mauvais match ou qu'ils perdent là, ils ont quelque chose à perdre, ils ont quelque chose à prouver. C'est ça le truc, c'est qu'ils peuvent pas se dire c'est bon, on a tout fait, on peut effectivement se reposer sur nos lauriers et faire preuve un petit peu de suffisance. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils ont perdu en Irlande. Peut-être que c'est pas uniquement qu'une question de niveau de jeu, peut-être qu'ils se sont vus un peu trop beaux. C'est encore une fois, Fabien Galtier l'a déclaré, la série de victoires fait perdre un petit peu le feu sacré, et ce feu sacré peut-être qu'il avait perdu un petit peu en Irlande. Donc là, il faut continuer à l'entretenir.
La question, c'est est-ce qu'ils ont encore des choses à prouver aux autres ? Non, les autres savent qui ils sont, c'est ça en fait le truc. Non, il y a plus rien à prouver parce qu'ils savent qui ils sont. Le niveau qu'ils ont.
Je suis assez d'accord avec toi, David. Oui, et c'est pour ça que je voulais. Mais moi, je veux te relancer, Stephen, parce que je comprends ceux qui disent oui, ils ont encore des choses à prouver. Mais ce match-là, il va pas changer leur statut,
si,
ce match-là.
Si tu perds et que tu prends une branlée, si, ça change.
Stéphane, parce que cette équipe de France-là, et ce qui me gêne, c'est que depuis quelques jours, on est déjà en train de faire le bilan du tournoi. Et le bilan du tournoi, il est pas fini. Parce que ça ferait tâche que la deuxième nation mondiale perde deux matchs sur un tournoi destination. Les Irlandais, mine de rien, ils nous ont cassé la bouche, vu l'état physique dans lequel on a fini. Et les Gallois, il y a un passif contre cette équipe-là. Dans l'historique du tournoi, c'est l'équipe qui est, avec l'Angleterre, est venue le plus de fois s'imposer chez nous, au Stade de France. Ils ont gagné 5 fois chez nous. Il y a un petit passif contre les Gallois.
Sauf qu'ils ne nous ont pas battus depuis que Galtier est à la tête de cette sélection. C'est vrai qu'ils nous ont martyrisés
pendant
des années.
Tu connais l'histoire du rugby.
Fabien, je voulais juste apporter ça que depuis que Galtier est là, on a gagné 2 fois à Cardiff et on les a battus. Une fois en amical et une fois au Stade de France, on les a privés du Grand Chelem. Ils ont gagné le tournoi. Rappelez-vous, l'essai de Dulin dans les arrêts de jeu, ça prive les Gallois du Grand Chelem il y a 2 ans.
Juste, Stéphane Brun, continue.
Mais je sais plus ce que je voulais dire, mon grand. voilà.
Je parlais du statut.
Oui, non. Et puis oui, le statut. Il y a eu des doutes sur cette équipe de France par rapport au début du tournoi. Le début de tournoi, il est pas si bon que ça. En Italie, rappelez-vous, on avait tous été déçus de cette prestation face aux Italiens. Il y a la défaite face aux Irlandais. Il faut la confirmation que ce qui s'est passé à Twickenham, c'est pas du one shot. C'est qu'on est capable de reproduire ce jeu-là face à une équipe qui paraît abordable. Et puis il y a le tournoi en jeu. Arrêtez de dire que le tournoi est perdu. On ne sait jamais. Faisons le boulot face aux Gallois. Mettons un peu la pression aux Irlandais, même si je suis pas sûr qu'ils aient une grande pression de jouer contre l'Angleterre, mais quand ils vont rentrer à 18h les Irlandais en disant bon les Français ils ont pris le point de bonus, il faut absolument que nous aussi on gagne sinon le tournoi ils nous passent sous le nez, c'est important. Et puis c'est le dernier match au Stade de France, le dernier match officiel, parce que les matchs de prépa, quoi qu'on en dise, les joueurs ils vont pas vouloir se blesser pour louper le plus grand événement de leur vie à la Coupe du Monde. Donc c'est peut-être le dernier match en configuration officielle, un match avec de l'enjeu, un vrai test match face aux Gallois, et il est important de finir par une bonne note. Ça, c'est ultra important de laisser une belle image.
Personne n'a dit le contraire, mais est-ce qu'ils ont encore des choses à prouver qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils doivent encore prouver qu'ils sont bons? Non, ils ont prouvé qu'ils étaient bons. Alors qu'ils perdent, qu'ils gagnent, etc. L'important, je suis entièrement d'accord. Le tournoi n'est pas fini, etc., etc. Mais globalement, ils n'ont plus rien à prouver aux autres quant à la qualité, à leur qualité intrinsèque.
Ouais, mais ils ont été un peu moins bons que l'année dernière. C'est pour ça que ils sont un petit peu moins bons que l'année dernière, David.
Ils sont plus attendus et les autres ont progressé. C'est pas qu'ils sont moins bons, c'est que les autres aussi ont progressé aussi.
Non, mais là, de toute façon, ils peuvent pas faire un tournoi avec 2 défaites. Ils peuvent pas se permettre de perdre contre le Pays de Galles aujourd'hui, c'est pas possible.
Les copains,
tu peux pas faire un tournoi avec 2 défaites et dire que tu vas arriver comme grandissime favori pour être vainqueur de la Coupe du Monde, c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'ils le gagnent ce match. Et attention, ils jouent pas contre des pimpins, hein, des Gallois. Il y en a certains qui ont gagné 3 grands chelems, ils ont remporté 5 tournois. Il y a des joueurs à plus de 100 sélections. Ça va être un match difficile. Il faut vraiment pas s'attendre à ce qu'on les massacre, parce qu'on effectivement on a mis une branlée à l'Angleterre. Hein, faut faire très attention.
Précision avec Wilfried Templier. Comment on gagne le tournoi?
Alors faut gagner de plus de 20 points. C'est très important pour le goal average, parce que s'il y a égalité de points avec l'Irlande, ce sera ça. Ils ont pour l'instant plus 20 par rapport à nous, il faut qu'ils perdent. Donc ils auront au mieux pour eux plus 19 s'ils perdent d'un point,
exactement, on va dire
au mieux. Donc il faut gagner de plus de 20 points. Et après, évidemment qu'il vaut mieux marquer le bonus offensif, parce que l'Irlande, si elle perd, elle peut perdre avec le bonus défensif. Ils ont 4 points d'avance, les Irlandais. Donc il vaut mieux espérer qu'elle perde et peut-être avec le bonus défensif. Donc pour ça, il faut marquer 4 essais et avoir le bonus offensif pour être à égalité avec eux et que ça se joue au goal average. Mais tout ça, évidemment, avec la maîtrise irlandaise et l'état des Anglais, c'est pas facile ce soir.
Une autre précision, Wilfried, ça va être intéressant parce que les Bleus, ils vont devoir rester au Stade de France assez tard, hein, ce soir.
Effectivement, ils sont après le match, donc le match à 15h45, alors que Irlande-Angleterre c'est 18h, ils vont pas partir dans Paris, ils sont obligés de rester au Stade de France, c'est l'organisation qui les oblige à ça. Donc parce que si jamais ils remportaient le tournoi, officiellement ils doivent revenir sur la pelouse, faire la photo, soulever le trophée dans un stade vide, dans un stade de France vide.
Bien sûr, on va.
Il y a quelque chose qui est prévu au Stade de France? Est-ce que le match est retransmis? Est-ce que tu as
Ils sont banqués avec le match. Il y a un banquet, donc du coup, pour l'équipe de France.
Non, mais pour les spectateurs. Est-ce que les spectateurs peuvent rester au Stade de France?
Non, merci.
Au revoir, faut partir. Faut pas rester là.
C'est pour l'équipe de France au banquet. Ils ont au moins l'image de l'Irlande. Et voilà, si ça se passait comme ça, ils reviennent sur la pelouse vide, sur le stade vide, sur la pelouse pour soulever le trophée. Les Gallois l'avaient fait il y a 2 ans parce qu'on avait un match en retard contre l'Écosse qu'on devait gagner de 20 points pour gagner le tournoi. Et les Gallois étaient à leur centre d'entraînement. En costard, ils avaient soulevé le.
Avec le Covid, quand le match avait été reporté.
Ouais, exactement. On avait joué une semaine après la fin du tournoi et eux, ils attendaient ça, de savoir s'ils gagnaient le tournoi.
très rapidement le mot de la fin, Simon Dutin.
Oui, ils sont mignons, nos bleus, on les adore. Ils vont quand même nous obliger à supporter le 15 de la Rose dans un match du tournoi. Et ça, c'est quand même quasiment du jamais vu. Pour revenir un petit peu très rapidement sur ce que disait Marion, je pense que quelque part, ils ont aussi envie de se prouver que c'est eux désormais la génération dominante du rugby européen. Et effectivement, ouais. À ce titre-là, il y a des mecs qui ont rincé tout le monde depuis 10 ans, qui sont effectivement en bout de piste, mais tu vois les Wyn Jones, North, Ken Owens, Tipurik, Falatea, c'est, je pense que voilà, leur rouler dessus cet après-midi et les mettre dans le rétro définitivement, je pense que pour cette génération, ce serait quelque chose un peu plus que symbolique.
Ok les copains, on remercie Wilfried Templier d'avoir été avec nous 15h45 avec Denis Charvet évidemment au commentaire, Christophe Cessieux qui sera également en direct du Stade de France.
Christophe Cessieux, on l'emmène au Stade de France.
Franchement c'est sympa, ouais. Franchement c'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin, parce qu'il peut pas trop enchaîner d'heures. Parce que vous savez, dû à son âge,
à l'EHPAD, il y a une autorisation de sortie de 3 heures seulement.
Et vous connaissez, c'est un peu comme Joe Biden. C'est-à-dire que quand on le sort, il faut qu'on le préserve le matin, évidemment.
Arrêtez d'embêter Christophe, vous parce êtes méchant.
Il est tellement liquide, on dirait une flaque. Parfait. 9h28, on se retrouve. On l'embrasse à Christophe, comme on dit, dans le Super Moscato Show. 9h28, on se retrouve dans quelques instants autour d'Esteban Ocon. C'est la punchline. Ça peut chauffer entre nous. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi avec ce matin Marion Bartoli, David Douillet, Stéphane Brun, Simon Dutin. Restez bien avec nous dans moins de 10 minutes. On s'en fout pas. Beaucoup d'informations à vous donner, notamment Christophe Galtier qui ne comprendrait pas les sifflets au Parc des Princes. Je rappelle que le PSG joue pour la première fois demain au Parc des Princes après l'élimination face au Bayern Munich. Ce sera à 17h05 face à Rennes. Esteban Ocon a vécu un véritable calvaire il y a 2 semaines pour le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Bahreïn. 3 pénalités durant la course et un abandon à 16 tours de l'arrivée. Pendant ce temps-là, son coéquipier chez Alpine, Pierre Gasly, parti dernier, a réussi à terminer dans les points 9e. Cette saison, on le sait, va sentir la poudre chez Alpine pour savoir si un des deux Français réussira à devenir le pilote numéro 1. C'est dans ce contexte que le patron d'Alpine, Laurent Rossi, a lâché une phrase étonnante dans un épisode du podcast de Formule 1. Intitulé, attention mon anglais, Beyond the Grid.
Interrogé. The Grid, oh my god, the Grid.
The grid.
Beyond the Grid.
Ok, pardonnez-moi.
La piste, the Grid.
The Grid, la piste. Grid, évidemment, c'est un verbe irrégulier. Interrogé sur le contrat long terme offert à Ocon, le boss de l'écurie française a dit ceci, c'est la punchline DGG, rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Presque chaque année, on lui disait, ça y est, c'est fini. C'est la fin de la route avec nous, et tu devras trouver un autre baquet pour l'année prochaine. Nous avons décidé de miser sur lui pour 3 ans et de lui permettre de rouler, et à l'époque, pour être honnête, personne n'était d'accord avec nous. Soyons clairs. C'était le meilleur pilote possible. Et j'ai toujours dit qu'Esteban était au moins un très bon deuxième pilote.
Voilà pour cette phrase qui, évidemment, est sujet à interprétation. D'ailleurs, dans un second temps, je vous donnerai sa justification. Est-ce tout simplement une erreur de com ? Oui ou non ? Stéphane Brun ?
Oui.
David Douillet ?
Oui.
Marion Bartoli ?
Oui, mais j'ai des nuances.
Ok. Simon Dutin ?
Oui.
Stéphane Brun, pourquoi oui ?
En fait, on connaît tous le contexte déjà, les antécédents Ocon Gasly, les centaines de questions sur l'éventuelle hiérarchie chez Alpine, et Laurent Rossi, dans ce contexte-là, il n'a pas le droit à l'erreur sur les mots qu'il utilise, parce que ça a trop de résonance aujourd'hui. Et la preuve, il a le droit à un débat, notre ami Lolo, dans les grandes gueules du sport. Et cette phrase, elle aurait pu passer inaperçue si tout s'était bien passé pour Ocon en ouverture de la saison à Bahreïn. Mais Ocon, il est passé au travers complet, 3 pénalités abandon, et sur les 3 pénalités, il a quelques responsabilités en tant que pilote. Et cette phrase-là, elle met déjà une énorme pression sur Esteban Ocon. Parce que ce qui s'est passé à Bahreïn, ça veut dire qu'Ocon, il est déjà derrière Gasly. Il n'a pas fait les points. Gasly est rentré dans les points, alors que Gasly découvre Alpine. Et que Ocon, on avait toujours tous dit, on va attendre 4-5 Grands Prix avant qu'une hiérarchie se dégage entre Gasly et Ocon. Là, la hiérarchie, elle est presque déjà établie. Si Ocon ne fait pas quelque chose à Jeddah...
Ah, il a déjà la pression là pour le Grand Prix demain.
Lui, il a la pression et Alpine, ils ont une pression hors norme. Laurent Rossi, lui, qui se disait...
moi je vais être quatrième au classement des constructeurs et se rapprocher de la troisième place. Sauf que il a vu Alonso, Stroll et Aston Martin pointer le bout du nez. Donc là, chez Alpine, je vous dis qu'il y a les jambes qui tremblent. C'est-à-dire, oulala, déjà on a un mec qui abandonne, un autre qui est vingtième sur la grille mais qui fait une belle remontée. On a Aston Martin qui est là, qui était inattendu. Ils ont une pression hors norme et Ocon, je ne sais pas comment il a vécu cette phrase-là. Après la justification de Rossi, tu peux me la répéter 10 fois. Je l'ai lu 8 fois. J'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire.
Donc okay. Tu le lances maintenant. Alors je vais vous faire l'explication et puis après évidemment je passe dans les rangs, les copains, vous allez pouvoir vous exprimer. Attention, c'est parti, on a prévu une petite musique pour comprendre la justification de Laurent Rossi. Tout le monde interprète cette phrase de manière différente. Mais quand je dis cela, c'est comme s'il n'y a pas de numéro 1 ou de numéro 2 chez Ferrari. Pourtant, je suis presque sûr que beaucoup de gens pensent qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2. Il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2 chez Mercedes. Et c'est difficile de discerner qui occupe actuellement ce statut là-bas. Je pense qu'Esteban sera l'un de ces deux pilotes, quel que soit celui que vous affrontez dans ces deux équipes. C'est ce que je voulais dire avec cette phrase.
Oui, non, il a rien dit en fait.
Merci. Il aurait bien fait de chanter Papa Noël.
C'est vrai, là on se serait dit... David Douillet a compris. Alors.
Ah ben moi je trouve que c'est très clair. Pour être aussi empêtré, il s'est emmêlé les pinceaux, il s'est crocheté tout seul, il est tombé à terre. C'est parce qu'il voulait simplement dire qu'il y a pas de statut aujourd'hui chez Alpine. Voilà, il y a rien. Voilà, il a essayé de commenter effectivement ce que t'as expliqué tout à l'heure, Stephen, un début de saison catastrophique pour Ocon avec ses pénalités. Mais il a deux pilotes qui sont bons et aujourd'hui il y en a pas un à ses yeux qui prend le pas sur l'autre. Et vous verrez que dans les grands prix qui vont arriver, il y aura, je pense, une très très belle histoire à raconter. Je pense qu'on aura de nombreux débats encore à venir sur Alpine dans les grandes gueules, c'est certain.
Ok, Marion Bartoli, il y avait des nuances pour toi.
Non, il y a des nuances parce qu'effectivement, quand tu vas jusqu'au bout de son podcast, jusqu'au bout de ce qu'il explique, il dit que finalement, il a donné un contrat 3 ans à Esteban pour justement qu'il arrête d'être sous pression chaque année en lui disant que ça allait être la fin, qu'il avait pu avoir de baquet, que donc il pilotait d'une manière beaucoup trop agressive en prenant beaucoup trop de risques pour essayer de démontrer qu'il pouvait être extrêmement rapide et gagner des courses, donc il avait sa chance. Il a pris l'exemple de Valtteri Bottas qui était un petit peu dans le même cas avec ses contrats d'un an à répétition chez Mercedes, et il finit en disant, pour moi, s'il veut montrer qu'il a les qualités pour faire de lui un jour un champion du monde, il faut effectivement lui donner le temps de rester 3 ans chez nous pour qu'il arrive à tirer la performance maximum de la voiture, mais aussi de l'usine, des 1200 personnes qui travaillent derrière, et que c'est pas uniquement de savoir qu'il va faire le tour le plus rapide. Donc d'un certain côté, il lui donne du crédit en lui octroyant du temps et en lui faisant signer un contrat de 3 ans, et de l'autre, effectivement, il a cette phrase extrêmement maladroite et son explication l'est encore plus. Donc j'ai du mal à discerner en fait ce qu'il pense vraiment. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'Esteban Ocon, et là je suis parfaitement d'accord avec Stephen, sur le premier Grand Prix, il n'a pas été à la hauteur, il le sait. En plus, toutes ces pénalités à répétition le mettent vraiment dans de grandes difficultés par rapport à Pierre Gasly. Donc là, il a un statut à nouveau approuvé. Mais d'un autre côté, il a son contrat de 3 ans qui le rassure un peu. Donc je sais pas si Laurent Rossi commence à s'en mordre les doigts en disant, oh là là, je vais donner un contrat de 3 ans, finalement il va s'asseoir dessus et puis il va nous faire des performances pas à la hauteur de ce qu'on espérait, et puis on va se retrouver qu'avec un seul pilote, d'où ses déclarations un petit peu maladroites pour le piquer à l'ego et au vif et le faire réagir. Je sais pas ce qui se passe vraiment en interne, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'ils ont pas beaucoup de sérénité.
Ouais, alors je te voyais réagir, Simon Dutin, quand Stephen a dit qu'il a déjà la pression sur ce deuxième Grand Prix Esteban Ocon, mais vas-y, tu peux y aller.
Je trouve que ce serait un peu cher payer de mettre la pression comme ça après effectivement une seule course. Toutes les équipes, je crois, sont en train de chercher leur marque et effectivement de chercher leur place sur cette grille. Je pense qu'il faut surtout pas non plus considérer que Laurent Rossi, bien que ce soit un nouveau venu en F1, bon, on sort de nulle part, ça fait 20 piges qu'il bosse chez Renault quand même.
Il a beaucoup de métiers et il est souvent très cash.
Hein. Il a une formation d'ingénieur. Peut-être qu'il lui manque effectivement ce côté manager de haute compétition, effectivement, avec les fauves que sont les pilotes. Il faut rappeler qu'effectivement, si tu compares avec un sport collectif, en F1, les titulaires, il n'y en a que 2 par équipe, effectivement. Stephen l'a rappelé, le choix des mots est fondamental, parce qu'il y a un effet de loupe, on scrute effectivement toutes les déclarations. Quand tu emploies l'adjectif deuxième dans une phrase que t'es patron d'écurie, c'est pas possible, effectivement. Après, les sensibilités des pilotes sont un petit peu différentes. Moi, ce que je crois comprendre et percevoir, et c'est à ce titre que c'est peut-être un petit peu dangereux, dangereux, c'est que, en tout cas, dans les interviews, dans la façon de s'exprimer, je trouve qu'Esteban Ocon est un peu plus expressif que son concurrent d'Alpine, parle un petit peu plus souvent de ses propres qualités, en gros affiche une confiance en lui qu'on voit pas toujours chez Pierre Gasly. À ce titre-là, peut-être qu'il serait vexé, mais bon, les exemples sont tellement nombreux, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de revenir de ce modèle pilote numéro 1 et numéro 2, t'es déjà bien content d'être ici, tu la fermes et t'aides ton leader. J'ai l'impression qu'on équilibre un petit peu plus les paires dans les écuries. Et bon, effectivement, une petite explication, les gars, ça se règle sur la piste. Ça t'a fait marrer, on équilibre les paires, c'est ça?
Alors ça m'a fait vraiment rire, mais surtout, c'est surtout la séquence qui arrive dans quelques instants qui va me faire rire, parce que évidemment, vous n'avez rien compris à cette justification de Laurent Rossi. En plus, on avait mis une musique qui pouvait prêter évidemment à ne rien comprendre. Donc je vous propose de refaire cette justification avec cette fois-ci la musique de Tino Rossi pour comprendre Laurent Rossi. On tente, on essaye.
C'est horrible.
Tout le monde interprète cette phrase de différentes manières, mais quand je dis cela, c'est comme s'il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2 chez Ferrari. Pourtant, je suis presque sûr que beaucoup de gens pensent qu'il y a un numéro 2. Il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2 chez Mercedes. Et c'est difficile de discerner qui occupe actuellement ce statut là-bas. Je pense qu'Esteban serait l'un de ces deux pilotes, quel que soit celui que vous affrontez dans ces deux équipes. C'est ce que je voulais dire avec cette phrase. C'est vrai qu'on dirait du Édouard Baird, non?
Vous êtes vraiment des enfants.
Tu vois, là, j'ai tout compris.
Là, on a compris.
Bah, bien sûr.
Non, on a toujours pas compris.
De bons et de mauvais pilotes.
Il n'y a pas de bons et de mauvais pilotes.
Parce que le premier pilote, il avance vite.
Oui.
Mais c'est un bon pilote.
Est-ce qu'on pourrait la refaire sur un tour en piste de Valentino Rossi?
Alors, on va le faire avant la fin de cette émission pour D'accord. voir si ça marche mieux, évidemment. Parfait, merci beaucoup les copains.
C'est comme il n'y a pas de bons et de mauvais chasseurs, c'est ça?
Exactement, sauf que le mauvais pilote, il fonce, mais c'est un mauvais pilote. Voilà. 9h42, on se retrouve dans quelques instants, le zapping des GG. J'ai du Christophe Galtier, j'ai du Jordan, j'ai aussi de la biquette. Voilà. Pourquoi de la biquette dans le zapping des GG? Ouais, tu fais très bien la biquette aussi. Ça, la réponse dans quelques instants, à tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h46, on est de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 10h, nous allons ouvrir le dossier Hervé Renard, qui pourrait devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. Est-ce la chance de sa vie? Ce sera notre question et vous n'êtes pas d'accord. Mes chers GG, Marion Bartoli, David Douillet, Stephen Brun, Simon Dutin ce matin. Et tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors mes GG, plusieurs informations à vous donner. L'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Christophe Galtier qui ne comprendrait pas les sifflets au Parc des Princes demain face à Rennes. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Marion Bartoli.
T'es enthousiasmé. Allez, je vais t'écouter. Je m'en fous pas.
Ok. David Douillet.
Oh là là, c'est stratosphérique pour moi, c'est trop compliqué, je m'en fous complètement.
Oui, ça, je m'en doutais. Stéphane.
Moi, je veux pas y aller là.
Tu vas pas?
Moi.
C'est sûr?
Oui.
Ok, le Paris Saint-Germain va rejouer au Parc des Princes pour la première fois depuis son élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, demain face à Rennes à 17h05. Alors, faut-il craindre les sifflets contre les joueurs parisiens comme la saison passée, avec notamment des sifflets à l'encontre de Lionel Messi et de Neymar? Écoutez la réponse de l'entraîneur du PSG hier en conférence de presse.
Évidemment que nos supporters, et Dieu sait que nous les mettons en avant parce qu'ils sont omniprésents, et c'est ne pas un discours comme ça de façade. Mais il n'y a aucune raison, vous me citez Léo Messi, mais même d'autres joueurs, il n'y a aucune raison de siffler nos joueurs. Nos joueurs ont donné le maximum dans cette compétition. Pour être plus précis par rapport à Léo, je le répète encore une fois, c'est 18 buts, 17 passes décisives. On n'a pas été éliminé à cause d'un tel par le Bayern Munich. On a été éliminé parce que le Bayern Munich est arrivé beaucoup plus en forme que nous sur cette double confrontation.
Ok, Simon Dutin.
J'avais dit je m'en fous pas juste pour avoir le droit, tu sais, d'intervenir, mais bon, comme personne veut y aller, c'est bien la méthode Coué, hein, ça a du bon, hein, au moins ça te permet de passer des moments moins désagréables à mesure que le match approche. Il peut se la raconter comme il veut, Galtier, c'est pas lui qui décidera, effectivement. Aucune raison, bon... Je l'invite à regarder, je sais pas, les
matchs.
Non, mais surtout, ben voilà, ils sont sortis en 8e. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal qu'à Paris on soit déçu. C'est normal qu'on en ait rien à faire de qu'on nous dise, qu'on nous prouve par A plus B qu'ils ont tout donné, qu'ils ont fait le maximum. Ils sont encore sortis, ils ont encore échoué. Et effectivement, ils ont encore livré globalement une double confrontation assez. assez désolante face au Bayern. Donc oui, qu'on soit déçu et qu'on ait du mal à s'enthousiasmer quand bien même il viendrait à battre Rennes ce soir. Bon, voilà.
Demain soir.
Okay. Demain soir, pardon.
Marion Bartoli, rapidement, après on passe à autre chose.
Non, mais exactement pareil. Mais je pense que Verratti, quand même, il va peut-être pas passer un super moment sur le terrain. À mon avis, ça va être compliqué pour lui. Mais comme l'a très bien dit Simon, c'est de la méthode Coué. C'est des phrases de com répétées à l'envi pour essayer de se trouver une excuse. Et je trouve ça ridicule, en fait. Parce que quand t'es même pas capable d'analyser le constat de manière honnête et objective, c'est pas comme ça que tu vas progresser. Donc, de toute façon, okay. S'il reste dans ses constats qui sont complètement faux, c'est pas comme ça qu'il va s'améliorer, ça c'est certain.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la FIFA qui a officialisé le format de la Coupe du Monde 2026. On s'en fout pas, mon Stephen, tiens.
Merci JC, je passe.
Ok, très bien. Ça sent le air zapping. David Douillet, ça t'intéresse ?
Je suis copilote de Steve.
Oui, je vois ça. Ouais, embarqué dans la même bagnole. Marion Bartoli ?
Non, je crois que malheureusement, je mène dans la même voiture aussi.
Ok, tout le monde passe. Simon,
tu t'en fous pas ? C'est un SUV, j'ai dit en train de rattraper la zapette et non, je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas ? Merci, mon petit Simon. La FIFA qui a donc officialisé le format de cette Coupe du Monde 2026 qui se disputera aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Le tournoi à 48 équipes se déroulera finalement avec des groupes de 4 équipes. 12 groupes de 4 équipes précisément. Les deux premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16e de finale, ce qui réduit évitablement et considérablement les risques d'une élimination prématurée. Mais évidemment, ce retour au groupe de 4 équipes, car à la base on parlait de groupe de 3 équipes, ces groupes de 4 équipes vont faire bondir le nombre de rencontres dans une Coupe du Monde. Ça va passer de 64, comme c'était le cas il y a quelques mois à Doha au Qatar, à 104. Et les finalistes iront jusqu'à 8 rencontres contre 7 actuellement. Rapidement, mon cher Simon, tu es tout seul dans cette histoire.
Bah, on s'en lèche les babines, hein, des Malawi-Jordanie ou des Lesotho Nicaragua en poule. Bon, tout le monde a envie de voir ce match-là. Bon, voilà, c'est Infantino et sa mafia, encore une fois. Faut faire de l'oseille, faut faire du blé.
Il va y avoir le sujet Infantino.
Faut concerner tout le monde, effectivement. Voilà, c'est une dilution des valeurs de sportives de la Coupe du Monde. Voilà, mais voilà, c'est la World Company. Ça n'étonnera personne. Il était question de la faire tous les deux ans. Peut-être qu'on la fera, du coup, à 48 tous les deux ans, ou voire tous les ans. Et peut-être qu'il reste plein de pays à la FIFA. Oui. Peut-être qu'on pourrait la faire à 96.
Pourquoi on fait pas tous les pays du monde?
Mais voilà, exactement, tous les pays du monde. Et on fait la Coupe
et
du Monde
en
permanence, tout le temps. C'est consternant.
Ok, c'est consternant. On reparlera de Gianni Infantino. C'est l'objet d'un homme en colère, Gianni Infantino, qui a été réélu de façon évidemment extrêmement démocratique. On en parlera à partir de 10h30 avec Pierre Amiche, notre homme en colère. Troisième information dans le zapping des GG, juste pour voir si vous allez complètement faire un air zapping, une innovation animalière pour le prochain Paris-Roubaix. On s'en fout pas. Ah, je résiste pas, Stephen Brun.
Ah, je suis déçu, moi. En fait, je disais non, je passe pour que tu me fasses Michael Jordan. Bon, moi, je veux quand même.
Attends, mais ça peut être arrivé.
Je vais quand même écouter les animaux.
Ah, ça t'intéresse ?
Bah, je connais pas le truc.
Ok, ça peut t'intéresser. David Douillet.
C'est le sujet le plus important de la matinée.
On y va ? T'y vas ? Tu veux y aller ?
Ouais, bah oui.
Ok, Marion Bartoli.
Oui, je prends.
Ok, Simon Dutin.
Allez, je m'en fous du coup.
À 3 semaines de Paris-Roubaix, une quarantaine de chèvres et moutons sont actuellement en pleine action pour désherber la trouée d'Arenberg.
C'est le joueur de l'OM ?
Non.
Quel enfoiré.
Le secteur pavé mythique
pas,
de la Reine des Classiques. C'est lors d'une opération d'éco-pâturage unique en son genre. C'est baptisé les biquettes de l'espoir et cette opération doit permettre d'éviter que la section pavée se transforme en Wimbledon, selon les propos de Thierry Gouvenou. Le monsieur Paris-Roubaix d'ASO. Voici ce qu'il
sinon
dit.
Sinon, j'irai jouer au tennis là-bas si c'est Wimbledon.
Bien sûr, avec certains pavés, ça va être sympa pour les robots. On s'était rendu compte pendant la période du Covid, où la section n'avait pas été utilisée pendant plus de 2 ans, que la nature reprenait rapidement le dessus. C'était devenu presque une prairie. Donc voilà, de l'éco-pâturage avec des moutons, des chèvres pour désherber ce secteur pavé. David Douillet.
Ben moi, je trouve que c'est un fabuleux contre les détracteurs du Tour de France qui expliquent à tort et à cri que c'est une course qui est pas écolo, etc. Oui, d'accord, il y a des Il y a des véhicules, il y a il y a toute une caravane, etc., etc. Mais comme des millions de Français qui se déplacent en voiture tous les jours, comme des avions, comme des bateaux, etc., etc. On focalise sur le sport. Et ben là, on a les biquettes. Et ben je trouve que c'est une belle, un beau retour aux vraies valeurs, parce que un bon cycliste sait que de l'herbe grasse sur des pavés, c'est très dangereux pour les cyclistes.
Ok, Stephen.
Non. J'ai dit, je m'en fous pas, je voulais écouter l'histoire. Stop. J'ai pas de réaction.
T'as rien à dire?
Non.
Marion, les biquettes?
Non. Moi, j'adore les biquettes. Donc, c'est très bien. Et en plus, c'est vrai qu'elles vont tout enlever. Je peux dire que rien rester, va pas rester un bout d'herbe. Parce que quand elles s'y mettent, elles font pas les choses à moitié, les biquettes.
Bon, donc, bah, c'est parfait.
Et Paris-Roubaix, c'est une belle initiative.
Et Paris-Roubaix, c'est dans 3 semaines. On en parlera dans cette émission. Évidemment, on souhaite un bon courage à toutes ces biquettes qui nous écoutent, peut-être actuellement dans les grandes gueules du sport. Alors, vous le savez, tout à l'heure, on a essayé un exercice de style, hein, essayer de comprendre la phrase de Laurent Rossi, le patron d'Alpine, avec la musique X5, la justification à propos d'Esteban Ocon. On n'a pas très bien compris.
Mais musique corse, c'est un corse.
Non.
Tu mets une musique corse.
Non, parce que on a aussi essayé sur une musique de Petit Papa Noël de Tino Rossi. Voilà, on n'a pas bien compris. Alors, on va essayer de comprendre Laurent Rossi avec un tour de piste de Valentino Rossi. On va voir ce que ça donne. Tout le monde interprète cette phrase de différentes manières. Mais quand je dis cela, c'est comme s'il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2 chez Ferrari. Pourtant, je suis presque sûr que beaucoup de gens pensent qu'il y a un numéro 2. Il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2 chez Mercedes, et c'est difficile de discerner qui occupe actuellement ce statut là-bas. Je pense qu'Esteban sera l'un de ces deux pilotes, quel que soit celui que vous affrontez dans ces deux équipes. C'est ce que je voulais dire avec cette phrase.
Ouais, c'est pas mal, mais ça m'a pas avancé.
Peut-être avec un but de Rossi, merci, l'Italien, là, dans les années 80.
J.C. Drouet, il lourd, quoi, le départ à 11h.
On va faire un sondage pour savoir si cette vanne, vous en voulez
sur
encore.
Sur un commentaire de Lionel Rossi.
Ah, Lionel Rossi! Oui, Europe 1, c'est ça?
Oui, voilà.
On cite les copains. Enfin, ou pas. Très bien. On va faire Lionel Rossi. On va faire sur un de ses commentaires. On va voir si ça marche. Évidemment, c'est Lionel Rosso, mais on s'arrange avec l'histoire. Voilà. Dites-moi sur les réseaux sociaux si c'est lourd ou si c'est pas lourd.
Non, dites-nous surtout si vous avez compris quelque chose, parce que nous, on n'y arrive pas.
Je fais un petit tour de table. Aider. Lourd, pas lourd. Stéphane.
Ouais, je crois que c'était celle de trop, celle-là.
Un peu trop, ouais. Un peu trop. Ok. David Douillet.
Moi, je pense qu'il y a encore une autre version à faire.
Ok, on va tenter une autre. Marion Bartoli.
Ah, je pense qu'il y a la place pour une dernière.
Ok.
Ah, mais tu peux toujours être encore plus lourd, j'y sais, pour vraiment en croire en toi.
On va la tenter. Si vous avez un Rossi préféré, n'hésitez pas à nous le dire. On va tenter de d'élucider ce mystère. On se retrouve dans quelques instants autour d'Hervé Renard, qui pourrait devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. Est-ce la chance de sa vie? Les GG ne sont pas d'accord. Beaucoup de surprises encore dans cette émission, notamment le débat caché. À tout de suite sur RMC.